Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Omblin et moi-même sommes ravis de vous accueillir et de vous accompagner avec le sourire jusqu'à 6h30.
C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas? Et tout le tralala.
Et bien que se passe-t-il, ma chère Ombline, si comme le chant de ce monsieur, nos enfants oublient tout pour la rentrée ce matin?
Ce sera gênant pour eux, hein, dans 99% des écoles de France. En revanche, à Lille, ce sera normal. Les élèves de maternelle et de primaire se présenteront tout à l'heure avec des cartables vides. La municipalité lilloise a décidé de prendre en charge toutes les fournitures scolaires. On en parlera dans une quarantaine de minutes avec Charlotte Brun, adjointe à l'éducation à la mairie de Lille. À 6h15, Julien, cap sur le Texas.
Où depuis hier, se procurer une arme à feu est aussi simple que d'acheter des fournitures scolaires. Ce n'est pas une blague. Plus besoin de permis, de présenter ses antécédents judiciaires ou de suivre une formation. Les Texans peuvent même se promener pistolet ou fusil apparent en public. C'est le retour du Far West et il est le signe d'une radicalisation de la droite américaine en perte d'électeurs. Analyse passionnante à suivre avec Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis.
Le jeudi, on parle gastronomie dans la prescription culture. Je ne sais pas si vous l'aimez avec votre café.
Pourquoi pas, ça dépend du fromage en question. Hein.
Fromage, mais Olivier Pouls va donc nous présenter son beau plateau de fromage, des fromages affinés dans le sud de l'Alsace.
Enfin, pour terminer ce sommaire, votre partition à 6h20 et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un concert solidaire.
Oui, une tournée de 6 semaines à travers le monde organisée par Amnesty International. Nous sommes en 1988, sur scène, certaines des plus grandes stars du rock du moment. Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Yu Sundur, le lancement du Human Rights Now Tour. C'était il y a 33 ans, jour pour jour, à Londres. Mais d'abord, c'est la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Et le temps change.
Oui, alors, pour la rentrée scolaire, le temps se dégrade sur la moitié sud seulement.
Ah, en fait, pour une fois.
Oui, c'est l'inverse, complètement l'inverse, vous allez voir. En fait, il y a une dégradation qui touche actuellement le Portugal et l'Espagne. Et donc, l'instabilité est en train de remonter sur la France. Alors, on aura beaucoup de nuages, des averses et des orages dans le sud cet après-midi. Cela concerne les régions qui sont situées entre les Pyrénées et la région lyonnaise, en passant par le Pays Basque, le Roussillon, les Cévennes, le sud de l'Auvergne. Voilà, dans toutes ces régions, le ciel sera couvert avec quelques averses. En Corse et sur les Pyrénées, on aura même des orages sur la moitié nord. À part quelques petites grisailles sur les côtes de la Manche ce matin, c'est du grand et beau soleil. C'est l'été, voire mieux que l'été, parce que les températures, écoutez bien, on aura 30 degrés à Limoges cet après-midi, 29 à Poitiers, 28 à Marseille et Clermont-Ferrand, 25 à Paris et 20 degrés à Cherbourg. Ce matin, on a un peu de fraîcheur. Ce sont les mêmes températures qu'hier, avec 8 à 20 degrés.
Et on embrasse évidemment nos amis du Sud. Merci beaucoup Anissa Haddadi. On vous retrouve dans une demi-heure. Place à l'info de ce jeudi 2 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Cancer qui ronge la ville, c'est la drogue. On a des résultats, mais on va continuer et aller au bout. On ne lâchera rien.
Emmanuel Macron s'engage dans la lutte contre l'insécurité et le deal de drogue à Marseille. Le président poursuit sa visite aujourd'hui et sera dans les écoles pour la rentrée des classes. Une rentrée scolaire sous la menace du variant Delta. Vaccination et protocole sanitaire strict déjà en vigueur depuis 2 semaines à La Réunion. Pour quel résultat? Réponse dans ce journal. Et puis le foot, un partout hier soir entre la France et la Bosnie. Les Bleus gardent la tête de leur groupe mais n'ont pas du tout convaincu. Et le journal de 5h vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Ombline, bonjour à tous. Pas de fausses promesses face aux attentes colossales des habitants. Emmanuel Macron assure être venu à Marseille d'abord pour écouter les Marseillais. Durant son immersion dans les quartiers nord à la rencontre des mères de famille ou des éducateurs, le président de la République s'est toutefois engagé à mettre le paquet pour lutter contre les trafics de drogue et ramener la sécurité. On ne lâchera rien, vous venez de l'entendre, a-t-il martelé devant les policiers. Stéphane Burgat a suivi les premiers pas d'Emmanuel Macron hier à Marseille.
Un plan à 150 millions d'euros dans la cour du commissariat de la division Nord. Le président annonce d'importants moyens matériels et l'accélération du calendrier des renforts déjà promis par Gérald Darmanin, tout en saluant l'action des forces de l'ordre.
Je considère que notre rôle avec le gouvernement, c'est de vous aider chaque matin à retrouver le sens du métier que vous avez choisi et de votre vocation. C'est un engagement d'être policier.
Emmanuel Macron est allé également à la rencontre d'habitants d'une cité défavorisée, où il a été interpellé sur les difficultés du quotidien.
Sans votre venue à l'heure actuelle, on n'existerait pas et puis on n'ouvrirait pas. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est quoi l'avenir pour les jeunes qui essaient de s'en sortir? Quelle est la solution pour nous aujourd'hui? Quelle est la solution?
Le président qui a également rencontré des élus locaux pour les mettre face à leurs responsabilités et poser ses conditions, selon la sénatrice socialiste Marie-Arlette Carlotti.
Et effectivement, il a rappelé peut-être une période où il y avait un premier comité interministériel sur Marseille qui avait été lancé par Jean-Marc Ayrault et où les élus locaux n'avaient pas réagi, pas porté les projets.
Emmanuel Macron, qui se rendra ce matin dans un groupe scolaire à l'occasion de la rentrée des classes, avant de dévoiler cet après-midi son grand plan pour la ville. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Une rentrée des classes pour Emmanuel Macron et pour 12 millions d'élèves qui se fera cette année une nouvelle fois sur fond de lutte contre le Covid.
Oui, avec un protocole sanitaire précis et en prime, un dispositif de vaccination autour des établissements scolaires pour les ados de plus de 12 ans. Protocole déjà appliqué depuis 2 semaines à La Réunion où la rentrée scolaire s'est effectuée il y a donc 15 jours. Objectif, eh bien, éviter, comme en métropole, les fermetures de classes pour cause de contamination. Objectif pas complètement atteint, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Charles Lullier.
Dans cette école de Saint-Denis, on ne plaisante pas depuis 2 semaines. Les 400 élèves suivent un protocole bien précis. Mia, en CM1, a déjà pris le pli.
Avant de monter en classe, on se lave les mains. Après, dans la classe, on doit porter le masque. Avant d'aller en récréation, on va se laver les mains. Après, dans la cantine, les copines des autres classes n'ont pas le droit de se mettre à la même place que nous.
Méthode efficace, mais qui n'a pas fait de miracle face au cluster ici. Dans les zones les plus touchées, on a dû fermer des classes. Une 50aine dès la première semaine, 80 durant la seconde. À peine 1% du total, mais c'est quand même la galère pour André. Son fils en CE2 n'a eu cours que 5 jours depuis la rentrée. La faute à 2 fermetures déjà.
3 jours après la rentrée, on a eu un message, faut pas l'envoyer à l'école. Et deuxième fois, on a eu la surprise que la classe est fermée pendant 7 jours. Ça va pas être facile de rattraper tout ça.
Alors pour éviter l'emballement, des vaccinodromes éphémères ont été installés dans 2 lycées. Problème, pour l'instant, seuls 300 élèves sur les 2000 éligibles ont franchi le pas.
Elle est vide la salle, tout le monde s'en fout. Il y a personne qui fait.
Moi je vais pas le faire en tout cas. Et il y a beaucoup de parents qui sont contre aussi.
Je m'en fous du vaccin. Ils m'ont donné un papier. J'ai jeté le papier parce que ça m'intéresse pas.
Une défiance vaccinale chez les jeunes qui ne rassure pas le rectorat. Car l'an dernier, l'école à la maison ici a provoqué un taux de décrochage 5 fois plus important qu'en métropole.
Charles Lullier de notre radio partenaire Radio Freedom à La Réunion. Sur le front de l'épidémie, l'OMS surveille l'apparition en Colombie d'un nouveau variant du virus baptisé Mu. Variant qui présente des mutations qui pourraient, il faut rester au conditionnel, indiquer une résistance au vaccin. Mais des études complémentaires sont en cours pour confirmer cette hypothèse.
Rentrée des classes, mais aussi rentrée sociale pour le Premier ministre Jean Castex.
Qui a entamé hier à Matignon ses entretiens avec les partenaires sociaux, une façon de prendre le pouls du monde du travail sur quelques sujets d'actualité ou pas, puisque par exemple, la réforme des retraites semble toujours au point mort. D'ailleurs, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, ne veut toujours pas en entendre parler.
On a été interrogé sur la question des retraites, la CFDT a été très claire. Il n'y a pas de voie de passage pour une quelconque réforme d'ici 2022 et donc toute concertation qui s'opérerait serait un peu lunaire. Au-delà des accords de fond, on ne va pas se mettre à discuter avec un gouvernement pour nourrir le programme d'un candidat. Ça n'a pas de sens. On peut traiter un certain nombre de sujets qui ne sont pas liés aux retraites, qui sont très importants, comme par exemple l'emploi des seniors. On a redit qu'on était préoccupés là-dessus, mais traiter du sujet des retraites alors qu'il n'y a pas de voie de passage pour faire une réforme d'ici 2022, avec un gouvernement qui ne sera pas le même après 2022, enfin en tout cas on n'en sait rien, ça n'a pas de sens.
Laurent Berger de la CFDT au micro de Carole Ferry.
5h06 sur Europe 1, venons-en à ce procès pour l'histoire, un retour sur l'un des plus grands traumatismes provoqués par le terrorisme sur le territoire français.
Oui, dans une semaine s'ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. 20 accusés dans le box de la cour d'assises de Paris, parmi eux Salah Abdeslam, des accusés qui répondront de la mort de 131 personnes au Bataclan et sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris, des quartiers de Paris où le souvenir est encore présent, comme a pu le constater Jean-Sébastien Soldaini sur place.
Pour trouver des traces de ce qu'il s'est passé dans le quartier, il faut lever les yeux attentivement ou bien fouiller derrière un parterre de fleurs. Là, gravé sur des stèles, apparaissent les noms des victimes. Mais Johan, client du petit Cambodge, avoue ne plus y prêter attention.
Au début, c'était très présent. Les premières fois, on y passe, mais avec le temps, on s'habitue même à voir la stèle. Et puis, la preuve qu'on a réussi à avancer, c'est que, comme vous voyez aujourd'hui, c'est un bel endroit.
Attablée au carillon, Camille était présente quelques minutes avant les attentats. Elle a refusé de quitter le quartier et commence à tourner la page 6 ans après.
Ça reste un souvenir qui est à la fois là, mais qui n'est pas présent à notre esprit. Enfin, c'est le principe de la mémoire qui fait son travail de sélection aussi, et c'est naturel et on reprend notre vie comme ça.
Ce ne sont finalement que les visiteurs occasionnels qui admettent de ressentir un frisson. Clémence est venue spécialement accompagnée de sa fille de 11 ans, un déjeuner pour entretenir la mémoire.
Là, ma fille ne savait pas que c'était un des restaurants où il y avait lieu les attentats, donc je lui ai expliqué pour continuer, parce qu'on n'a pas peur, parce que on a la chance de pouvoir aller en terrasse, d'être à Paris, puis parce que pour que le lieu continue de vivre.
La vie, tous les jours de l'année et rien d'autre, tous les jours sauf à chaque anniversaire du 13 novembre ou de l'aveu d'un cafetier, l'ambiance reste pesante.
Un reportage de Jean-Sébastien Soldaini.
On termine avec le foot et cette rentrée peu convaincante des Bleus hier soir face à la Bosnie.
Oui, un partout dans une rencontre un peu poussive, hein, malgré la belle ambiance du stade de la Méno à Strasbourg. Des Bleus réduits à 10 en seconde période. Alors vous connaissez la formule, hein, Julien, quand on ne peut pas gagner, eh bien on s'emploie à ne pas perdre. Ouais. C'est un peu le constat que fait Didier Deschamps, le sélectionneur.
On doit se satisfaire de ce match-là, mais qui n'était pas ce qu'on avait prévu. Après, vu le scénario... C'est devenu compliqué quand on a été réduit à 10. Oui, on a eu moins le ballon. On est reparti sur un nouvel objectif avec toute notre force et notre énergie. Mais aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas le résultat escompté, mais personne regarde derrière. Le plus important, mais c'était aujourd'hui. Et puis là, c'est récupération et ce qui nous attend samedi.
Samedi prochain, effectivement, contre l'Ukraine. La France toujours leader hein, de son groupe, Didier Deschamps, avec Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1. Et puis, Cristiano Ronaldo est décidément le meilleur joueur de l'histoire. Il est entré, en tout cas, hier dans les annales du foot, puisqu'il a inscrit avec le Portugal ses 110e et 111e but en sélection, battant ainsi le record de l'Iranien Ali Dei pour une victoire du Portugal 2-1 face à l'Irlande.
Merci beaucoup, Lionel Gougelot. Prochain journal complet, 5h30.
Il est 5h09 sur Europe 1, c'est l'heure des courses, c'est le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 705 Sibylla Spain, absente depuis sa probante 4e place, obtenue dans le prix de Diane le 20 juin sur l'hippodrome de Chantilly. Cette pouliche de classe va donc effectuer une rentrée très attendue après avoir bénéficié d'un break estival au bon soin de son entraîneur Christopher Head. Dans un état resplendissant le matin sur les pistes d'entraînement de Chantilly, elle n'a certainement pas besoin d'être à 100% de ses moyens pour pouvoir ici l'emporter. Notez bien, pour Longchamp, réunion 1, dans la 7e course, le numéro 5, Sibylla Spain.
Merci beaucoup Thierry Léger, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Il est 5h10, excellent début de matinée sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans un instant, on va décortiquer pour vous la presse du jour.
Il sera question notamment du fils d'Oussama Ben Laden, artiste peintre haut en couleur. A tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h11 sur Europe 1, l'heure où certains d'entre vous s'apprêtent à partir au travail ou y sont déjà. Courage, on est là pour vous accompagner et en l'occurrence vous raconter les meilleurs articles à lire ce matin dans la presse.
Oui, un pressing qui ne serait pas complet sans Martin Lange qui vient de nous rejoindre. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On commence avec les unes de vos principaux quotidiens qui, pour beaucoup, s'intéressent sans surprise à la rentrée scolaire. L'année dont rêvent les enfants, titre aujourd'hui en France, qui est allé demander à des élèves leur souhait pour ce retour en classe. Et ce qui revient le plus, c'est le désir de tomber le masque dès que possible. Rentrée, la grande interrogation, peut-on lire à la une de Libération qui revient sur le protocole sanitaire dans les écoles, jugé laxiste par certains ou liberticide pour d'autres. Enfin, le Figaro consacre sa une à la visite du chef de l'État à Marseille. Sécurité, école, Macron rôde sa campagne, titre Le Quotidien. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Rôde, ça marchait aussi hein, pour Marseille.
Oui, oui, c'est vrai, effectivement.
Voilà un lien qu'instinctivement on n'aurait pas forcément fait. Covid et chirurgie esthétique. La faute aux réunions vidéo avec les collègues, hein, les fameuses visio. C'est-à-dire dès aujourd'hui dans l'Obs. Ah oui, on en raffole. Hein. On n'a jamais autant eu affaire à notre propre reflet, hein, notre image.
C'est vrai.
À jamais perfectible. On ne voit que les défauts sur l'écran d'un ordinateur. On voit que ça. C'est pas beau. Voilà. Cet effet zoom, comme le nomme le magazine, enfonce le clou après le phénomène de la rich girl face, tous ces selfies pimpés de stars qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux. Il existe des filtres absolument formidables pour rester jeune en photo, comme si les pommettes, le front, les lèvres de Kim Kardashian ou de Bella Hadid étaient figées dans le temps, à jamais. Des filtres qui lissent, hein, tout ça, et font briller le regard pour faire illusion.
C'est assez dérangeant d'ailleurs, hein.
Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que c'est très réussi. Mais ce ne sont pas les seuls responsables, ces filtres. La rich girl face s'acquiert grâce aux mains expertes des chirurgiens esthétiques et leurs miraculeuses injections de Botox ou d'acide de hyaluronique. Aussi tendance qu'un sac d'une marque de luxe, on parade avec une bouche bombée et des yeux étirés vers les tempes. Alors, on ne se rend plus forcément dans une clinique classique désormais. Les médecins, vous les trouvez sur Instagram ou sur TikTok, on partage ces bonnes adresses. Sur les réseaux sociaux, voilà, c'est plus un plat maintenant, c'est une seringue, comme si c'était normal. Le petit coup de laser rapide sans douleur ou l'injection remplace la manucure de la pause déjeuner. Alors attention, en ligne, sur les réseaux sociaux, on n'est pas à l'abri de se faire avoir par des charlatans, des injecteurs du dimanche qui vous feront repartir avec le redoutable duck face, ces lèvres énormes,
oui, magnifique,
très raté,
très à la mode à Los Angeles.
Oui. Vous l'avez compris, la cible pour ces actes de chirurgie esthétique 2.0 est de plus en plus jeunes, elles ont tout juste la vingtaine et elles sont adeptes du Botox en prévention. J'aime beaucoup le « en prévention ». Je vais m'injecter pour les rides qui arriveront plus tard.
Peut-être.
Laser, mésothérapie.
C'est beau les rides en plus.
Oui, oui c'est vrai.
Bah, ça fait partie de la vie.
Bah oui, mais bah c'est oui. Beau une femme qui se ride. Enfin, je ne sais pas, c'est mon avis personnel.
Les hommes aussi. Les nouvelles cures de jouvence pour créer l'illusion de la jeunesse éternelle, c'est à lire dans l'Obs.
Merci Omblin. Martin, à vous.
Ouais, je vous présente un peintre ce matin. Il a 40 ans, signe ses œuvres OBL et vit dans un petit village normand de l'Orne. En ce moment, il expose dans une brocante de Tailleul dans la Manche. Alors, on est loin de la dernière exposition médiatique du musée d'Orsay ou du Louvre. Alors, pourquoi je vous parle de cet artiste, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que OBL, c'est Omar Ben Laden, le quatrième fils d'Oussama, le cerveau des attentats du 11 septembre. C'était il y a 20 ans tout juste. On s'apprête à fêter cette triste date d'anniversaire. L'homme à l'origine aussi de l'intervention américaine en Afghanistan. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors avec son béret et sa moustache, Omar passe parfaitement incognito. Mais regardez de plus près ce regard sombre, ce nez. Il y a bien quelque chose de l'ennemi public numéro 1 du 21e siècle.
Alors comment s'est-il retrouvé en Normandie ?
Alors c'est forcément une longue histoire. Ouais. Omar, c'était le fils préféré, l'héritier. À 15 ans, il s'entraîne déjà dans les camps d'Al-Qaïda. Son père lui demande même de participer à des attentats suicides. Mais c'est la demande de trop. Hein. Omar rompt avec sa famille quelques semaines avant le 11 septembre. Il est d'ailleurs le seul Ben Laden à condamner publiquement les attentats. S'ensuit un long chemin de croix avec ce nom importable. Les frontières se ferment une à une. Finalement, c'est au Qatar qu'Omar trouvera refuge en 2013. Il y obtient la nationalité, commence à y faire des affaires dans l'immobilier. Mais là encore, l'héritage est trop lourd, les portes se ferment. En 2016, avec son épouse, il décide donc de tout quitter pour s'installer à Domfront en Poiret, petit havre de paix normand, ça s'invente pas exactement. Ouais. C'est là qu'il a trouvé son équilibre. D'ailleurs, il s'apprête à ouvrir un café-restaurant. Et c'est là aussi qu'il commence à peindre lors du premier confinement, renouant avec sa passion de jeunesse.
Et donc, dans cette brocante ou ailleurs, ça marche.
Et oui, ça cartonne même pour sa deuxième exposition seulement. Ses toiles s'échangent jusqu'à 1 500 € l'unité. Ouais. Mais aussitôt achetées, elles sont très vite revendues bien plus chères dans des grandes galeries parisiennes.
Ah ouais.
Car oui, un peintre qui s'appelle Ben Laden, ça fascine. Alors pour l'instant, Omar se fait une petite réputation en Normandie, bien aidé par la presse locale, mais il a un rêve, exposé au Louvre.
Ah oui.
Voilà, on y revient. La nouvelle vie d'Omar, un fils de Ben Laden en Normandie, c'est à lire dans Ouest France.
Et d'ailleurs, je précise cette citation, je pense que je serai un peintre célèbre peut-être plus que Van Gogh.
Tout à fait.
Voilà. Ah oui, c'est
voilà
ça.
Ce que
oui.
Dit,
oui, il a un égo assez...
Le très modeste Omar Ben Laden.
Assez impressionnant.
Merci beaucoup Martin. On termine ce tour de table avec vous Julien.
On vous a parlé cette semaine de cette nouvelle législation en Chine visant les mineurs un peu trop accros à leur console de jeu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, c'est ça. C'est très limité en temps.
Voilà, désormais Désormais, les jeunes chinois n'auront plus que 3 heures par semaine et le week-end seulement pour jouer à des jeux vidéo en ligne qualifiés d'opium mental par le régime. Alors, ça peut paraître anecdotique pour nous autres Français. Après tout, pourquoi pas légiférer en la matière. Mais en Chine, cette mesure n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg coercitif que Pékin est en train de mettre en place. Sa cible, la jeunesse chinoise, beaucoup trop réceptive à la culture occidentale selon le Parti communiste chinois. Voilà pourquoi cet été, une campagne de désintoxication a été lancée, nous apprend le Wall Street Journal dans un article traduit par l'Opinion. Premier visé, les stars chinoises de la pop. Ces boys band.
Prochaine partition, Omblin.
Ah, ça fonctionne.
Avec plaisir, Omblin. Hein. On vous écoutera avec attention sur les TF Boys. C'est le nom de ce boys band qui génère des milliards de vues et considéré, avec d'autres, comme responsable, je cite, d'une société détournant les jeunes garçons de leur masculinité. Ah, oui, en clair, à force d'écouter les paroles mielleuses de chanteurs au look efféminé, les jeunes chinois ne seraient plus suffisamment virils aux yeux de Pékin, qui du coup a imposé aux plateformes et réseaux sociaux de ne plus référencer les noms de ces célébrités. Résultat, quand vous tombez sur la chanson que vous venez d'entendre, par exemple, il n'y a plus aucune mention de ces auteurs. Autre mesure destinée à viriliser les jeunes chinois en vue, je cite, de la régénération de la nation, ce sont les mots du régime, la pratique à l'école d'un vrai sport de mec. Fini les disciplines comme la danse, le ministère chinois de l'éducation a donné ordre à ses établissements de promouvoir des sports comme le foot. Quand Pékin s'attaque à la culture efféminée des jeunes chinois, c'est à lire ce matin dans l'Opinion, et c'est assez édifiant.
Quand on sait que la danse est à ce point-là difficile physique, on peut pas dire que ce soit.
Oui, et puis qui s'applique autant aux femmes qu'aux hommes.
Mais bien sûr, c'est pour ça. Voilà, exactement. Merci Julien. Voilà qui conclut le pressing de ce jeudi. Et Martin, vous revenez évidemment dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure pour le Journal des Sports.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 2 septembre, c'est le journal permanent avec Élise Danjon. Bonjour Élise.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Pas de fausses promesses, promet Emmanuel Macron en visite à Marseille depuis hier. On ne lâchera rien dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, a-t-il lancé devant les policiers, annonçant l'arrivée de 300 personnes de plus, promis par le ministère de l'Intérieur avec un an d'avance. Ce matin, le président sera dans une école marseillaise pour assister à la rentrée scolaire. Il dévoilera ensuite son plan d'urgence pour la cité phocéenne cet après-midi. Plus de contrôle obligatoire du pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux des Yvelines ou de l'Essonne, mais toujours à Paris, le tribunal administratif de la capitale a lui rejeté hier les requêtes de suspension de l'arrêté préfectoral. L'Organisation mondiale de la santé surveille un nouveau variant du coronavirus, baptisé Mu. Il a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier dernier. L'OMS souligne que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques. Et puis, les Bleus ont raté leur rentrée à Strasbourg contre la Bosnie hier avec un nul 1-1, un accroc sur la route des qualifications mondiales 2022 avec des conséquences certes limitées sur le plan comptable mais qui ravivent le souvenir douloureux de l'euro manqué.
Merci beaucoup Élise Danjon. Journal complet, 5h30 avec Christophe Lamarre.
Europe 1. Il est 5h20 et c'est l'heure de notre coup de projecteur quotidien, les initiatives en France. Chaque matin, on va au plus près de chez vous pour mettre en lumière ces actions qui font avancer le pays. Et on s'intéresse ce matin, Julien, à une bibliothèque en Normandie qui multiplie les initiatives depuis l'instauration du pass sanitaire.
Bonjour Karine Collet.
Bonjour à vous.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes bibliothécaire à la médiathèque Roland Plaisance à Évreux, où tout est fait pour maintenir le lien avec votre public. On va y revenir dans un instant. Mais avant, expliquez-nous quel a été l'impact pour vous de l'instauration du pass sanitaire.
L'introduction du pass sanitaire a été une mesure de plus, une nouvelle contrainte pour nous et surtout pour nos usagers. Et on a trouvé des moyens, des méthodes pour donner la possibilité à la fois à nos inscrits et aux personnes qui pouvaient le devenir d'accéder à toutes nos offres, à nos collections à la fois physiques et à nos collections dématérialisées.
Alors justement, pour ces personnes-là qui n'ont pas de pass sanitaire, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis la fin juillet ?
Si ce sont des Évreuxiens, puisque l'inscription est gratuite, on va les inviter à produire les pièces justificatives dont on a besoin et on va les inscrire de façon à ce que, depuis chez eux, ils puissent bénéficier des collections numériques, que ce soit la vidéo à la demande, la presse en ligne ou encore les livres numériques. Et donc, ils peuvent accéder aux trois offres à distance et également accéder aux collections physique, puisqu'ils vont faire des réservations, nous appeler pour faire des réservations, qu'ils viendront récupérer à la porte de l'établissement et on leur donnera.
Ça veut dire qu'à l'autre bout du téléphone, vous êtes en mesure, par exemple, si c'est une personne âgée qui n'a pas Internet ou qui ne sait pas l'utiliser, lui recommander un livre en particulier, cette personne vous dit « j'aimerais bien lire un polar » et vous lui dites « ah bah tiens, j'en ai un sous la main ».
Oui, oui, non, on a toujours des ressources. Après, ce qu'il faut, c'est aussi, on continue à faire notre rôle de conseiller, de prescripteur. On va essayer de savoir ce que la personne aime et n'aime pas et aller lui proposer à la fois des choses qu'elle connaît et des choses pour l'amener à découvrir d'autres choses. Les gens peuvent emprunter jusqu'à 50 documents, donc on arrive à trouver une certaine marge de manœuvre pour les inciter à emprunter des fois quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément pris, mais qui va peut-être les amener à autre chose.
Alors, quelle autre initiative avez-vous mis en place ?
Alors, les initiatives complémentaires, c'est par exemple, c'est les personnes qui ont besoin d'accéder à l'impression de documents, comme c'est le cas en temps normal, on les renvoie vers d'autres services municipaux qui, eux, ne sollicitent pas le pass sanitaire, puisque nous, on est contraints par la loi d'appliquer cette exigence-là. Après, en contrepartie, nous, ce qu'on a souhaité, c'est du coup privilégier autant que possible les inscriptions. Il faut savoir que les mineurs n'ont pas justifié d'inscription. Donc déjà, on a aussi parfois des parents qui nous envoient leurs enfants pour pouvoir accéder aux documents et avoir le service qu'ils souhaitaient au départ.
Vous organisez également, je crois, des événements en plein air ou sur Skype.
À l'issue du premier confinement, en fait, on a développé un certain nombre de médiations dématérialisées, de médiations grâce notamment à Skype, entre autres, effectivement. On a pu déployer une chaîne YouTube, on a continué à travailler avec les réseaux sociaux type Facebook. Et donc, notamment, on essaye de retransmettre nos conférences, on essaye de retransmettre nos interviews, notamment on a une de nos collègues qui a pas mal travaillé sur le monde de l'édition bande dessinée et de promouvoir les auteurs, les maisons d'édition, mais aussi les acteurs de programmation pour maintenir le lien.
Oui, et c'était éminemment indispensable. On comprend à travers tout ce que vous nous racontez que cette crise, au final, vous a poussé à repenser totalement votre métier.
Alors, on a repenser nos outils de travail. Dans le fond, notre métier est toujours le même. On est là pour offrir de l'information et de l'accès à la culture. Maintenant, en fait, là où on doit être plastique, nous, du côté professionnel, c'est les outils qu'on va déployer. On a fait des enregistrements audio, on a fait de la vidéo, on a fait tout ce type d'outils nous a permis de rester en contact, notamment pendant le premier confinement, avec tous nos publics. Et ça a été aussi source de création de leur côté, puisqu'ils nous retournaient en remerciement parfois même des vidéos qu'ils ont créées.
Je sais que c'est pas votre rôle, mais est-ce que vous vous permettez parfois de dire à certaines personnes qui se présentent devant votre médiathèque, vous devriez vous faire vacciner, comme ça finit la plupart des contraintes ?
C'est très difficile de tenir ce genre de propos, d'une part parce que on est là pour inciter les gens à bien s'informer, c'est-à-dire qu'on va essayer de les sensibiliser par rapport à tout ce qui est de l'ordre des fake news. On continue à avoir un travail avec les jeunes, notamment il y a des ateliers qui sont prévus à la rentrée pour sensibiliser à la désinformation et ce genre de choses. Nous, notre rôle, il se situe à cet endroit-là. On est là pour permettre aux gens de disposer des outils qui leur permettront de réfléchir par eux-mêmes. À aucun moment donné, on est là pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils sont libres de faire comme bon leur semble. On n'est pas là pour donner cette orientation-là.
Merci beaucoup, Karine Collet. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter toutes les initiatives que vous mettez en place à la médiathèque Roland Plaisance. C'est à Évreux. Bonne journée à vous.
Merci également. Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, nous sommes le 2 septembre et ça y est, on ne peut plus reculer. La rentrée scolaire, c'est ce matin.
Imaginez, Julien, votre enfant arrive à l'école avec une trousse et un cartable vide.
Il me renie, je pense.
L'horreur. À Lille, depuis cette année, en maternelle et en primaire, ce sont les établissements qui fournissent gratuitement le matériel scolaire. Les cahiers, les feutres, les ciseaux, de quoi remplir cette trousse et ce cartable vide. Lille est la première grande métropole en France à le faire. On en parlera dans 10 minutes avec Charlotte Brun, adjointe à la mairie de Lille. Et puis Julien, je crois je crois bien savoir que vous avez une faiblesse pour le Saint-Nectaire.
Ah oui, effectivement, mais pas uniquement. Je dis jamais non à un bon comté, par exemple. Olivier Pouls va nous emmener dans le sud de l'Alsace à la rencontre de l'un de nos plus grands affineurs, la gastronomie, comme tous les jeudis. Dans votre prescription culture, ce sera dans un quart d'heure. Mais avant, la météo, Anissa Haddadi, moins beau dans le sud que dans le nord aujourd'hui.
Oui, la tendance s'inverse. Une fois n'est pas coutume, mais c'est vrai que là, du sud de la Garonne jusqu'au golfe du Lion, le ciel est beaucoup plus couvert aujourd'hui. En fait, c'est une dégradation qui touche la péninsule ibérique et qui remonte jusqu'au sud de la France. Alors ce matin, dans le sud, en plus des nombreux nuages, nous aurons des averses qui deviendront d'ailleurs cet après-midi, si on regarde de plus près sur le bassin aquitain, jusque sur le Limousin et au bord de la Méditerranée, ces averses deviendront orageuse. Donc c'est pas franchement une journée de rentrée scolaire très sympa pour les enfants qui nous écoutent dans le sud. Sur la moitié nord, alors là c'est totalement autre chose, c'est du grand beau temps, le soleil brille dans un ciel totalement dégagé, c'est l'été indien sur la moitié nord. Ce matin nous avons sur les côtes de la Manche encore un petit peu de grisaille qui va se lever, nous aurons toujours ce vent de nord-est, cette bise qui souffle jusqu'à 50 km/h en Normandie et en Bretagne et partout ailleurs, il fait vraiment beau. 9 à 15 degrés ce sont les températures ce matin de la région parisienne à la Bretagne, jusqu'à 20 degrés dans le sud. Et seulement 6 à 7 degrés dans le nord-est. Il fait un petit peu frais dans le nord-est. Cet après-midi, on va toucher les 30 degrés. Je vous dirai où ? Dans une demi-heure.
Quel teasing. Couvrez vos enfants si vous habitez dans le nord-est ce matin. Merci Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, 5h30.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le jour d'après, en Afghanistan, les talibans sont désormais totalement maîtres du pays. À Kaboul, les opposants au régime se cachent pour éviter les représailles. La rentrée scolaire, un peu plus de 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce matin. Rentrée sous protocole sanitaire strict et dans certains départements, on doit affronter une pénurie d'enseignants. La visite d'Emmanuel Macron à Marseille, le chef de l'État promet l'arrivée de 200 policiers supplémentaires dès l'année prochaine et le déploiement de 500 caméras de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité. Et puis l'équipe de France de foot accroché par la Bosnie, un partout en match de qualification pour le Mondial 2022. Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. C'est un haut responsable de la diplomatie américaine qui parle. Il se dit hanté par les choix qu'il a dû faire sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul lors des opérations d'évacuation. Difficile d'évaluer le nombre de ces Afghans abandonnés à leur sort. Plusieurs milliers sans doute. Seule certitude, ils sont maintenant la cible des talibans. Insultes, intimidations et menaces, c'est le quotidien de ceux qui refusent de courber les chines. Et pour les femmes, c'est encore pire, comme a pu le constater Margot Ben, envoyée spéciale en Afghanistan.
Il y a encore deux semaines, Nargis était une jeune femme épanouie, organisant colloques et réunions avec un groupe d'activistes féministes. Le jour où les talibans se sont emparés de Kaboul, elle a commencé à recevoir des flots de menaces sur son téléphone, l'accusant de débauche.
On t'a vu à la télévision, on t'a vu afficher des photos de toi. Tu as pris ces photos avec cette chanteuse débauchée, Ariana Saïd. Ton père, ton frère t'ont permis de faire ça ? On t'a à l'œil.
Et puis, il y a environ une semaine, les talibans sont venus fouiller sa maison.
Quand ils sont entrés chez nous, ça a été horrible pour moi. Le soir même, j'ai quitté la maison de mes parents. L'une de mes amies tient un magasin, il était vide, j'y suis restée 3 jours et 3 nuits. Dans ce petit local désaffecté, j'avais juste un matelas. Vivre dans son pays, c'est la chose la plus importante pour n'importe qui. J'aime mon pays, mais les talibans sont inhumains. Ceux qui ont des connaissances, nos vies, notre avenir, ça ne compte pas pour eux. On ne vaut rien pour eux.
Puis, elle entend parler d'un avion privé qui pourrait décoller sous peu du nord du pays pour évacuer des Afghans vers un pays inconnu. Dissimulée sous une burqa, Nargis monte dans un bus, la peur au ventre. Depuis, elle loge chez des amis d'amis, espérant que l'avion providentiel l'amènera bientôt loin de là.
Margot Ben, envoyée spéciale en Afghanistan.
C'est l'heure de la rentrée pour un peu plus de 12 millions d'élèves.
À l'odeur des cahiers neufs et les promesses que l'on se fait, bien se tenir, bien travailler, ramener de bonnes notes et ne pas oublier le masque et les gestes barrières, puisque cette rentrée, comme la précédente, se fera sous Covid et parfois sans professeur. Dans les Pyrénées-Orientales, une vingtaine d'enseignants ont démissionné, du jamais vu selon les syndicats. Reportage Benjamin Péter.
Ça fait quelque chose, oui, de voir le bateau qui s'en va sans nous.
C'est la première fois en 32 ans que Sylvie ne va pas faire sa rentrée. Après un refus de sa demande de temps partiel, elle a finalement donné sa démission, dégoûtée par le manque de considération.
Ce métier, vous l'aimiez ?
Bien sûr, je l'aime toujours, mais ça me coûte trop en énergie. Depuis plusieurs années, on nous demande beaucoup de comptes rendus sur ce qu'on fait, pour avoir une espèce de contrôle sur ce qu'on fait. Et quand on voit le temps qu'on peut passer à préparer, à penser les choses dans un pays où finalement, c'est des choses qui ne sont pas trop payées.
En tout, le syndicat SNUPP des Pyrénées-Orientales a recensé 19 professeurs d'école démissionnaires ici, du jamais vu, là où on en constatait parfois un ou deux maximum les années précédentes. Et pour Jean-François Noguès, le secrétaire départemental, ce n'est pas une conséquence du Covid.
Aucun collègue ne nous a parlé du Covid comme raison de son départ. Les plus jeunes ont 25 ans, quelques années d'ancienneté seulement. Les plus âgés ont la cinquantaine passée. Le point commun, c'est vraiment une perte de sens du métier. Et j'ai bien peur que ce soit une tendance de fond.
En effet, d'autres enseignants, au moins trois dans le département, auraient voulu partir grâce à une rupture conventionnelle qui leur a été refusée. Ils redoutent donc un manque d'effectifs dans les prochaines années et peut-être même dès cette rentrée. À Perpignan, Benjamin Péter, Europe 1.
En Polynésie, la reprise de l'école attendra encore. Le préfet s'apprête à prolonger le confinement et la fermeture des classes. La mesure devait prendre fin le 5 septembre. Les détails seront dévoilés dans la matinée.
À Marseille, Emmanuel Macron s'est rendu hier dans les quartiers nord pour parler sécurité et faire quelques promesses.
C'est la première étape de ce long déplacement de trois jours. Le premier thème aussi, celui de la sécurité dans une ville secouée par les règlements de compte. Le président s'est offert un bain de foule et la visite du commissariat du quartier. Emmanuel Macron promet d'accélérer l'arrivée des effectifs supplémentaires déjà prévus, soit 200 policiers dès l'année prochaine et près de 160 millions d'euros pour la rénovation des locaux et l'achat de matériel.
Un déplacement qui prend des airs de campagne, même si l'Élysée s'en défend.
Et pourtant, les affiches sont prêtes. Les jeunes avec Macron vont lancer une grande campagne de communication. 50 000 affiches placardées dans 80 villes. On y voit Emmanuel Macron sur fond noir avec ce texte. Vivement consigne pour 5 saisons de plus. Clin d'œil appuyé à la plateforme Netflix. Et l'on repense à ce déplacement à Marseille, à ce bain de foule, cette rencontre avec les jeunes. Louis Dragnel, est-ce le début de campagne du président ?
Eh bien, officieusement, oui. Trois jours de déplacement dans une ville de métropole, il ne l'a jamais fait. Avec de vrais sujets de présidentiel, sécurité, éducation, économie, logement, une manière de répondre aux attaques de la droite, mais aussi de faire face à son bilan et de se projeter. Et puis, officiellement, il n'est pas vraiment en campagne. D'ailleurs, Emmanuel Macron se lancera le plus tard possible. À ce stade, il se fiche totalement de savoir qui sera son directeur de campagne, qui fait partie de l'organigramme. Il a horreur de ça. Tout sera piloté en réalité depuis l'Élysée par son carré d'une dizaine de fidèles. Et puis, il le sait, le jour où il descend dans l'arène de la campagne, il n'est plus tout à fait président. Il se transforme en président et candidat, ce qui le place immédiatement à portée de baffe de ses concurrents. En tout cas, ce que je peux vous dire, Emmanuel Macron boit du petit lait quand il observe ce qui se passe à droite et à gauche, avec des primaires compliquées. Il a d'ailleurs tout fait pour ne jamais être confronté à ce problème, en ne donnant aucun poids ni aucune structure véritable à son parti, La République en marche. Résultat, il est aujourd'hui le seul, l'unique, le candidat naturel de son camp.
Louis de Ragnel.
Qui dit campagne présidentielle dit sondage. Une nouvelle enquête donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen vainqueurs du premier tour.
Sondage Harris Interactif pour le magazine Challenge. Emmanuel Macron sortirait vainqueur du premier tour, quels que soient les candidats qui se présenteront à droite comme à gauche, qui se présenteraient à droite comme à gauche. Et parmi les prétendants à l'Élysée, les positions se resserrent entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Deux points les séparent désormais. À gauche, le candidat Mélenchon réunirait 12% des voix au premier tour. Anne Hidalgo recueillerait 7% des suffrages.
Le football, et deux mois après la terrible déception de l'Euro, les Bleus n'ont pas convaincu hier soir face à la Bosnie.
Les joueurs de Didier Deschamps doivent se contenter du match nul 1 partout. Ils ont même terminé à 10 après l'expulsion de Jules Koundé. Si ce résultat ne remet pas en cause les chances de qualification pour le Mondial l'année prochaine, il a quand même de quoi inquiéter. Les Bleus ne vont pas mieux. L'Euro a-t-il laissé plus que quelques traces ? Le capitaine Hugo Lloris préfère regarder devant.
Honnêtement, l'euro appartient au passé. On essaie de donner un nouvel élan. C'est une nouvelle saison. C'est également un match de rentrée. On est tous à des niveaux de préparation différents. On est jugé sur les résultats. Aujourd'hui, ce match nul, on ne peut pas s'en contenter. Mais on regarde devant. Comme au mois de mars, on avait démarré avec ce match nul face à l'Ukraine à domicile. Et ça ne nous avait pas empêché d'aller prendre 6 points sur 6 les deux matchs suivants. L'ambiance était magnifique aujourd'hui. Et les supporters auraient mérité certainement un meilleur match et une meilleure issue, on va dire.
Hugo Lloris, gardien de l'équipe de France, propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Enfin, Julien, un record pour finir. Il a 36 ans et il continue d'affoler les compteurs. Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire en sélection, toutes sélections confondues, 111 buts. Il inscrit un doublé hier soir lors de la victoire du Portugal 2-1 contre l'Irlande.
Impressionnant, effectivement. Mais c'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du quintet avec vous, Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, fin d'après-midi à 18h20, que va se courir ce quintet. Un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 7 ans avec un favori solide, Shankir, le numéro 14, qui a visiblement le bon profil pour remporter dès cet après-midi son premier quintet. La distance et le bon terrain correspondent parfaitement bien à ses aptitudes et je sais que son jockey Gérald Mossé a consenti à faire des efforts pour pouvoir le monter au poids de 54 kilos, une démarche annonciatrice d'une très grande performance. On lui opposera les numéros 2 Gladys Senora et 13 Sam, classés dans cet ordre aux deux premières places d'un quintet similaire, le 9 août à Clairefontaine, avec I Dream, le numéro 4, le doyen de ce quintet et qui du haut de ses 7 ans n'a jamais été aussi performant. Enfin les numéros 6, January, 16, Mabawi, 1, Monsieur Xo et 15, Vega Magic ont eux aussi quelques arguments pour pouvoir postuler aux premières places de ce quintet. Mon pronostic, 14, 2, 13, 4, 6, 16, As et 15.
Et ces pronostics sont à retrouver maintenant, dès maintenant sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Excellent jeudi matin, plus que quelques heures avant la rentrée des classes. Et oui, nous sommes le 2 septembre et ce matin à Lille, figurez-vous que les enfants vont retourner à l'école avec un cartable vide, sans cahier, sans stylo. A tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h42, bon réveil à tous en ce jour de rentrée scolaire pour 12,5 millions d'élèves. Rentrée particulière pour les élèves lillois de maternelle et de primaire. Leurs parents ont été dispensés de la traditionnelle corvée des fournitures scolaires. Un plus également pour leurs finances, dont on sait que la facture peut vite grimper. Eh bien à Lille donc, cahiers, classeurs et stylos sont fournis gratuitement cette année. C'est la première métropole en France à le faire. Et pour en parler, Omblin, vous recevez Charlotte Brun, adjointe à l'éducation à la mairie de Lille.
Bonjour Charlotte Brun.
Bonjour.
Ils vont arriver avec quoi, les enfants lillois, dans leur cartable ce matin? Rien?
Ce matin, les enfants arriveront avec un cartable vide. Il y aura une trousse vide également à l'intérieur et peut-être un agenda s'ils le souhaitent, parce qu'on sait que les enfants aiment bien choisir leur agenda eux-mêmes. Et oui, parce que cette année, pour la première fois, il n'y a plus de liste de fournitures à Lille dans les écoles primaires. C'est la ville qui s'occupait de toutes les listes de fournitures et les fournitures les attendent sur leur table quand ils arrivent.
Rappelons que l'école en France est gratuite. Donc, ça n'a pas de sens que le matériel utilisé par les enfants ne le soit pas, que les parents finalement mettent la main au porte-monnaie. C'est vers ça que vous tendez?
Oui, l'école gratuite, c'est un principe républicain qui est très fort, mais qui est un peu perdu de vue par parfois des listes de fournitures à rallonge qui diffèrent d'une école à l'autre, voire même dans une même école, d'une classe à l'autre. Et donc, nous avons souhaité à Lille, avec les directeurs d'école et les parents d'élèves, mener un chantier de plusieurs mois pour identifier pourquoi, alors même que nous donnions déjà une très grosse dotation pour l'achat de matériel aux écoles, il y avait parfois des très grandes différences, souvent très coûteuses pour les familles. Et nous avons souhaité, avec l'Éducation nationale, revenir à ce principe républicain très important pour nous, qui est celui de la gratuité, car les conditions de la réussite éducative doivent être les mêmes pour toutes et tous.
Vous le dites, hein, c'est un moyen de limiter les discriminations entre les élèves. Avec cette mesure, il y a également la volonté de consommer différemment, des achats responsables et une utilisation durable du matériel. Alors comment cela va se traduire concrètement ?
Alors nous avons déjà, pour cette rentrée scolaire, proposé aux enseignants qui passaient commande pour leur fourniture scolaire auprès de la ville, de flécher des commandes avec des labels écologiques et responsables. Et nous allons aussi, pendant toute l'année, suivre des classes pilotes qui vont partager leur expérience avec leurs petits camarades lillois sur des pratiques qui auront un plus faible impact écologique. On pense bien sûr au remplacement des 20 tubes de colle entouré de plastique par d'autres solutions plus écologiques, mais c'est aussi, par exemple, une meilleure utilisation des cahiers, une mutualisation des fournitures, et sûrement plein de propositions que les élèves et leurs enseignants de ces classes pilotes nous feront dans l'année et que nous partagerons.
En cette rentrée, cette mesure concerne 12 500 enfants. Ça va coûter combien à la municipalité lilloise ?
Le budget global s'élève à 604 000 euros. Nous avons augmenté le budget fourniture de 20%. Et il était autour de 500 000 euros. Et donc, c'est une augmentation de plus de 100 000 euros. Nous estimons, vous le voyez, on utilisait déjà un gros budget pour accompagner les écoles dans l'achat de fournitures. Et nous estimons que ce pas supplémentaire est nécessaire vraiment pour faire en sorte que l'accès à l'école soit équitable pour toutes et tous. Et c'est une mesure qui est très appréciée des enseignants et évidemment des familles et des enfants.
Les familles ont-elles toujours droit à l'allocation rentrée scolaire versée par la caisse d'allocation familiale si l'établissement fournit le matériel ?
Alors les établissements sont normalement déjà, comme vous me le rappeliez tout à l'heure, censés fournir du matériel puisque l'école est censée être gratuite. L'allocation de rentrée scolaire ne disparaît pas, elle reste valable pour les familles sous condition de ressources et elle est bien utile pour des familles pour qui une rentrée scolaire, c'est de nombreux frais, bien au-delà de la seule liste de fournitures. Je pense aux paires de chaussures, aux baskets, aux vêtements, aux inscriptions diverses et variées pour des enfants. Une rentrée, ça coûte cher pour les familles. Et la mesure lilloise, qui est pour toutes les familles sans condition de ressources, c'est une mesure d'équité, viendra soulager évidemment les plus fragiles, mais a aussi pour objectif de rappeler que l'accès au savoir, l'émancipation et la réussite éducative ne peut pas être conditionné aux revenus des parents.
Merci beaucoup, Charlotte Brun, de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle
Merci
que vous
beaucoup.
Êtes adjointe à la mairie de Lille, attachée à l'éducation. Il est 5h47 presque sur Europe 1. Très bon réveil. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de prendre votre petit déjeuner, ça tombe bien.
Et si vous l'aimez salé, écoutez bien ce qui va suivre. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Alors Olivier, comme chaque jeudi, vous explorez notre patrimoine gastronomique et nous allons parler fromage ce matin. Où est-ce que vous nous emmenez ?
Je vous emmène en Alsace, dans le sud de l'Alsace, dans un instant. Je ne sais pas si vous êtes fromage, vous, dès le petit déjeuner.
Ah oui,
à
mais
cette
tellement.
Heure-là.
Ah mais tout le temps.
Ah mais vous avez raison.
24 heures.
Alors direction la petite commune de Vieux-Ferrette à la rencontre d'un de nos plus grands fromagers. Il s'appelle Bernard Anthony, sans H, épaulé par son fils Jean-François depuis 20 ans. Il affine dans ses caves les plus grands fromages de France. Il n'est pas producteur, mais comme il se définit lui-même, éleveur de fromage. Un métier qui se fait assez rare aujourd'hui. C'est une rencontre en 1979 avec Bernard Androuet, grand maître fromager de l'époque, qui va faire basculer la vie de cet ancien épicier ambulant. Il découvre un univers et un métier qui le fascine, celui d'affineur. Et dès 1983, ça y est, il saute le pas et aménage sa première cave.
Alors en quoi consiste ce métier ?
Vous savez, le fromage, c'est un peu comme le bon vin. Souvent, le temps est son allié. Mais hélas, beaucoup de producteurs, pour des raisons économiques, mettent sur le marché des fromages qui sont très ou trop jeunes. Dans de nombreux cas, ça pose pas de problème. Prenez du chèvre frais, par exemple, on va pas le faire vieillir. Mais souvent, ces fromages gagnent à être affinés davantage. Un bel exemple, c'est le Saint-Nectaire, par exemple. Quelques semaines d'un affinage bien mené permettent d'obtenir un fromage plus crémeux, plus souple, plus subtil en termes de goût.
C'est chez bon,
les... Ah bah oui, c'est bon, ça je vous le confirme. Ça donne faim même à ce temps-ci. Chez les Anthony, on sélectionne les meilleurs fromages auprès des producteurs, une centaine, toujours au lait cru, et on leur permet donc d'atteindre leur juste maturité. Le Comté, par exemple, dont la maison s'est faite une spécialité, peut parfois attendre plusieurs années dans les caves pour continuer à mûrir. J'ai eu l'occasion de déguster des comtés de plus de 6 ans, extraordinaire, un travail méticuleux qui nécessite une attention quotidienne pour surveiller chaque pièce.
Et dans un lieu à chaque fois dédié, Olivier, j'imagine.
Oui, c'est un de ses secrets. Inutile d'essayer d'affiner du fromage en le laissant traîner dans votre frigo.
Non, ça ne fonctionne pas.
Non, ça ne marche pas du tout, hélas. Il faut des caves dédiées, car en fonction des fromages, Le taux d'hygrométrie ou de température doit être différent. Certains doivent être retournés, les croûtes lavées ou brossées, d'autres humidifiées. Il y a 7 caves chez les Anthony. Les tomes, les chèvres, les croûtes fleuries, les pâtes pressées ne sont pas mises ensemble. Ce savoir-faire vraiment remarquable qu'ils maîtrisent à la perfection et qui s'est, faute de place, souvent perdu chez les fromagers dans les centres-villes. Le travail d'Anthony est aujourd'hui reconnu par de nombreux chefs étoilés chez qui on peut déguster des pièces d'exception, parfois affinées uniquement pour eux.
Alors, en dehors de ces restaurants prestigieux, hein, c'est chez ces chefs étoilés, on peut déguster ces fromages où ?
Ben sur place, par exemple, à côté des caves d'affinage, la famille Anthony a ouvert une petite table où on peut déguster des assiettes thématiques autour des fromages et même réaliser des accords fromage-vin. On peut les commander directement sur le site internet ou en Alsace ou sur les marchés où les Anthony présentent leurs plus belles pièces. Et vous verrez que vous allez alors découvrir le fromage sous un autre angle.
Effectivement, ça donne faim. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On vous retrouve samedi à partir de 11h dans la table des bons vivants avec Laurent Mariotte.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 5h50, l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 2 septembre avec vous, Élise Dangean.
Après avoir plongé dans les problèmes d'insécurité des cités nord de Marseille hier, Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui sa visite de la cité phocéenne en assistant à la rentrée dans une école marseillaise. Cet après-midi, il détaillera un plan d'urgence pour la ville qui comprendra notamment un volet pour la rénovation des établissements scolaires. C'est la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves, rentrée placée une nouvelle fois sous le signe du Covid. Dès le CP, les élèves devront porter le masque en classe. La nouveauté cette année, collèges et lycées vont contribuer à la campagne de vaccination ouverte aux plus de 12 ans. C'est l'un des plus gros trafiquants de drogue français. Son procès a commencé hier. Moufid Bouchibi, un franco-algérien de 41 ans, est poursuivi pour une dizaine de go-fast et pour l'importation depuis le Maroc de centaines de kilos de résine de cannabis. Hier, la première journée du procès s'est tenue dans un climat houleux, émaillé de plusieurs suspensions d'audience. Les débats reprendront aujourd'hui.
Merci Élise Dangean. Journal complet dans 9 minutes avec Romain Oquet.
Europe Matin.
Après l'info nationale et internationale, penchons-nous maintenant sur l'actualité au plus près de chez vous. L'un de vos nouveaux rendez-vous du matin, baptisé « C'est en France », un article de la presse régionale raconté par celui ou celle qui l'a écrit. Et ce matin, Julien, eh bien direction la Charente.
Bonjour Amandine Coignard.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes journaliste à la Charente Libre, la Charente où on le découvre avec votre article « Trouver une location en ce moment tient du parcours du combattant ».
Effectivement, le marché de la location, ce n'était pas encore le cas il y a 2 ou 3 ans, mais il est plutôt en tension chez nous en ce moment. On a eu des témoignages d'agents immobiliers en ce moment qui sont plutôt noyés sous les demandes et un peu submergés.
C'est-à-dire, ils vous racontent quoi exactement ?
Alors, ils nous racontent effectivement qu'ils se retrouvent dans des situations qu'on pensait plutôt dédiées au marché parisien ou bordelais, à savoir qu'ils sont obligés, dès qu'ils mettent une annonce, de la dépublier presque dans les minutes, dans les heures en tout cas qui suivent, parce qu'ils se retrouvent avec 20, 30, 50 demandes. Chez nous, c'est un peu du jamais vu. Ils n'avaient pas eu ça précédemment. On avait même eu en 2008... plutôt une baisse de la demande et des difficultés à louer. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse.
Quand vous dites chez vous, c'est à Angoulême ?
Ouais, à Angoulême, mais pas seulement. En fait, ça touche aussi Cognac. C'est compliqué aujourd'hui de trouver une maison ou même un studio à louer sur Cognac également. Et dans la périphérie d'Angoulême aussi, et même dans la campagne charentaise, que ce soit La Rochefoucauld, Jarnac. Ils témoignent qu'ils ont mis en vente, là par exemple, 2 maisons à Jarnac. Et pareil, ils ont dû retirer l'annonce parce qu'ils ont eu 20 à 30 appels et ça a été loué tout de suite.
Qu'est-ce qui explique cette situation ? C'est l'arrivée des étudiants ?
C'est la première raison, effectivement, qu'ils invoquent. On a eu l'école 42, l'Airbus Academy, le Polimage, Audentia. On a vraiment beaucoup d'écoles qui se sont installées, une vingtaine là en 2 ans. Donc ça a fait un peu un boom d'arrivée d'étudiants. J'ai une maman qui témoigne là qu'elle s'y attendait pas du tout. Elle est de Marseille et son fils de 22 ans était sur Bordeaux l'année dernière. Elle pensait que trouver un logement sur Angoulême, ça allait être très simple. Elle a attendu le mois d'août et elle s'est retrouvée vraiment face à un mur et face à des agences qui ne pouvaient pas faire grand-chose pour elles parce qu'il n'y avait plus grand-chose sur le marché.
Et puis il y a aussi les entreprises. On découvre en lisant votre article qu'elles recrutent massivement en Charente.
Oui, on a des belles entreprises en Charente qui se développent pas mal et qui recrutent la Saft, Nidec, Schneider Electric et d'autres et qui cherchent pas mal des locations plutôt de courte durée, de 3 à 12 mois. Ils ont pourtant des belles enveloppes à donner, c'est plutôt pour des cadres ou des gens qui viennent former leurs salariés. Du coup, c'est souvent des enveloppes qui peuvent aller jusqu'à 1000, 1200 euros. Alors chez nous, ça fait c'est des très belles maisons, des choses avec 3-4 chambres. Mais en fait, ils ont vraiment du mal aujourd'hui à trouver des biens qui correspondent malgré ces budgets importants.
Du coup, j'imagine que les prix des loyers augmentent un peu partout.
Oui, les prix des loyers, alors d'après les estimations des différents agents immobiliers que j'ai pu interviewer, c'est des prix qui augmentent entre 10 et 20%. On était plutôt, par exemple, pour un T2 en centre-ville, ce qui est beaucoup recherché par les étudiants aujourd'hui, parce qu'à Angoulême, ils se disent qu'ils peuvent avoir une chambre. On était plutôt sur du 450 euros il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, il faut compter 500 à 550 euros. Quoi.
Ah oui, ce qui est conséquent, surtout pour les finances des étudiants. Merci beaucoup, Amandine Coignard. Merci de nous avoir fait découvrir votre article à lire aujourd'hui donc dans la Charente Libre. Bonne journée et à bientôt.
Je vous en prie, à bientôt. Au revoir.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
5h57, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Voici le programme de la prochaine demi-heure, Julien.
Si je vous dis Omblin, États-Unis, 393 millions, vous me répondez ?
Le nombre d'habitants ?
Non, pas loin, mais non. C'est le nombre d'armes à feu en circulation au pays de l'oncle Sam. Mais ce n'est pas prêt de s'arranger, puisque depuis hier, au Texas, il n'y a plus besoin d'avoir de permis pour acheter un pistolet ou un fusil. Et ce, alors que les tueries de masse se multiplient. Que cache cette dérégulation ? On en parlera dans un quart d'heure avec la spécialiste des États-Unis, Laurence Nardon. Et puis juste après, votre partition, évidemment, Omblin.
Rappelez au monde que les droits de l'homme sont sacrés et qu'il faut les célébrer en musique. C'est la volonté d'Amnesty International. Et c'était il y a 33 ans. La tournée Human Rights Now avec notamment Bruce Springsteen, Sting, également Peter Gabriel, Tracy Chapman, le récit dans la partition.
Ma chère Anissa Haddadi, météo de ce jeudi sera ensoleillée dans l'ensemble.
Oui, je vous parle beaucoup des nuages depuis ce matin 5h, mais sur la grande majorité des régions, quand même, c'est le soleil qui domine aujourd'hui. Une belle journée estivale, mais c'est sur la moitié nord que ça va se passer. C'est là que le temps sera le plus estival, parce que dans le sud, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au golfe du Lion, c'est vrai qu'on a un ciel très couvert dès ce matin, avec des averses. Et cet après-midi, la dégradation va encore évoluer, puisque sur le bassin Aquitain, donc en gros en Gironde, sur le Limousin et jusqu'en Corse, nous aurons des orages, donc c'est franchement pas terrible dans le sud. Sur la moitié nord, quelques grisailles ce matin sur le littoral de la Manche. La bise souffle toujours jusqu'à 50 km/h. Partout ailleurs, c'est du grand soleil.
Et puis si je me souviens bien, à 5h30, vous nous aviez promis qu'on allait atteindre les 30 degrés cet après-midi.
Oui, c'est vrai, vous n'oubliez rien, Julien. Alors 30 degrés, c'est vrai, on les aura à Brive-la-Gaillarde et à Limoges cet après-midi. Ce sont des températures bien au-dessus des normales de saison. 29 à Montluçon et Valence, 28 degrés pour Marseille et La Rochelle, 27 à Nantes et Nice, 26 pour Biarritz, 25 à Paris et Strasbourg, 24 degrés à Pau et Belfort et 20 petits degrés à La Fraîche à Saint-Brieuc.
Merci Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est tout juste 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Cartable, trousse et masque, tout est prêt pour la rentrée scolaire. Pour ce rituel, Emmanuel Macron sera dans une école marseillaise ce matin. Le chef de l'État doit dévoiler son plan pour les établissements de la ville. À cause du Covid, ils ont été hospitalisés en réanimation. Dans ce journal, vous entendrez ces malades traumatisés, qui plaident désormais pour la vaccination. Et puis l'été 2021, un été maussade qu'on préfère oublier. Les apiculteurs également, la production de miel dégringole pendant que les prix, eux, explosent. Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. La nuit a probablement été agitée pour les 12 millions d'élèves de retour en classe ce matin. Une rentrée scolaire qu'Emmanuel Macron suivra dans un établissement des quartiers nord de Marseille. L'école, c'est justement l'une de ses priorités pour la cité phocéenne.
Le plan du chef de l'État baptisé Marseille en grand sera dévoilé cet après-midi avec au moins 1 milliard consacré à la rénovation des écoles. Écoutez le reportage à Marseille de notre correspondant Stéphane Burgat.
Ils sont 78 000 écoliers marseillais attendus ce matin dans des écoles où les conditions d'accueil diffèrent radicalement. Car si certains groupes scolaires sont rénovés, d'autres sont dans un état inacceptable, selon Cécile Baron du collectif des écoles de Marseille.
Des faux plafonds qui s'effondrent, lorsqu'il pleut, il y a des enfants qui doivent déménager de bureau parce que la pluie tombe sur leur bureau. On a des gros problèmes d'isolation, de moisissures, on a des fenêtres qui ferment mal, c'est complètement inacceptable.
Alors, rénover, oui, c'est indispensable, mais il faudrait construire des classes supplémentaires, car là aussi, la ville est en retard, déplore Sébastien Fournier, qui est enseignant dans les quartiers nord et secrétaire départemental adjoint du syndicat SNUPP-FSU.
Nous, on estime à 10 ou 12 groupes scolaires qu'il faut construire sur Marseille en urgence pour faire face à la surpopulation scolaire, puisqu'on a sacrifié des salles pédagogiques pour accueillir justement des nouvelles classes avec des élèves. Donc ça, c'est des plusieurs centaines d'élèves qui ne sont pas scolarisés dans l'école de secteur, qui doivent faire plusieurs kilomètres pour aller à l'école le matin.
Et sur les 472 écoles municipales ici, 200 à des degrés divers auraient besoin d'être rénovées. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et parmi les autres axes du plan de l'exécutif, la lutte contre l'insécurité. Le chef de l'État a dévoilé hier l'arrivée anticipée de 200 policiers dès l'année prochaine et le déblocage de 150 millions d'euros pour un nouveau commissariat.
Et c'est entouré d'une soixantaine de policiers des quartiers nord qu'Emmanuel Macron a distillé ses annonces. Tout ça après un bain de foule et des poignées de main avec les habitants d'une cité voisine.
Une mise en scène choisie donc dans un déplacement aux allures de campagne électorale. Et ça n'a pas échappé à Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône.
Je ne supporte pas ça. Le gars qui arrive, on est à 8 mois de l'élection présidentielle, tout le monde comprend qu'il est en campagne électorale. On est tous priés de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Bon, moi, je vais quand même dire. Donc, je ne comprends pas ce qu'il vient faire là, à part la campagne électorale. Donc, comptez pas sur moi. Je ne vais pas nous demander de danser en cadence, quoi. Non. Mais là, c'est qu'ils se défilent les uns derrière les autres. Ici, c'est le pèlerinage des promesses à Marseille. Moi, j'ai dit à Payan, tu prends lui tout de suite le chèque. Hein. Donc, je leur dis, mais dépêchez-vous d'amener une pile de dossiers, demandez-lui le chèque. Parce que là, ça ne coûte rien de promettre 3 milliards. Hein. Héro aussi, il avait promis 3 milliards. Un truc qui, de toute façon, équivaut à peu près à une lettre au Père Noël.
Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise et candidat à l'élection présidentielle.
6h03, la suite du journal avec la rentrée des classes sociales pour Jean Castex.
Le Premier ministre reçoit jusqu'à demain le banc et l'arrière-ban des représentants des syndicats. La CFDT va ouvrir le bal aujourd'hui, mais Laurent Berger, le secrétaire général, ferme déjà la porte aux discussions sur la réforme des retraites.
On a été interrogé sur la question des retraites, la CFDT a été très claire. Il n'y a pas de voie de passage pour une quelconque réforme d'ici 2022 et donc toute concertation qui s'opérerait serait un peu lunaire. Au-delà des accords de fond, on ne va pas se mettre à discuter avec un gouvernement pour nourrir le programme d'un candidat. Ça n'a pas de sens. On peut traiter un certain nombre de sujets qui ne sont pas liés aux retraites, qui sont très importants, comme par exemple l'emploi des seniors. On a redit qu'on était préoccupé là-dessus. Mais traiter du sujet des retraites alors qu'il n'y a pas de voie de passage pour faire une réforme d'ici 2022, avec un gouvernement qui ne sera pas le même après 2022, enfin en tout cas on n'en sait rien, ça n'a pas de sens.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT au micro Europe 1 de Carole Ferry. Demain, la CGT sera reçue à Matignon et le syndicat annonce déjà une journée de mobilisation le 5 octobre.
La CGT qui appelle aussi à manifester le 14 septembre, cette fois pour protester contre l'obligation vaccinale imposée prochainement aux soignants. 85% d'entre eux ont reçu au moins une injection.
Dans le reste de la population, la vaccination protège environ les deux tiers des Français. Parmi eux, d'anciens malades qu'a rencontré Marion Gauthier, des patients traumatisés par leur passage en réanimation.
Moi, je me suis réveillé, j'étais directement paralysé. Je ne pouvais plus respirer, plus m'avaler, plus manger, plus parler et plus bouger.
Le 23 mars 2020, Laurent est plongé dans le coma. 2 semaines. Au réveil, ce père de famille a développé un syndrome de Guillain-Barré. Il est entièrement paralysé.
J'ai eu la trachéotomie. Toutes les 15 minutes, j'étais obligé de sonner pour qu'on vienne m'aspirer la gorge. C'était assez grave pour que je me dise que le vaccin pourrait être utile pour les gens.
Bah d'ailleurs, on s'est tous fait vacciner, mais vraiment les premiers.
Soutenu par son épouse, le quadragénaire poursuit aujourd'hui la rééducation. Entre deux séances, il pose sa canne et allume son ordinateur, passe tout son temps libre à témoigner, à partager des articles sur les réseaux sociaux à propos de la vaccination. Même routine pour Philippe, la quarantaine lui aussi, soufflé par le Covid en avril dernier.
D'un seul coup, j'avais pris 40 ans, quoi. Il y a un avant et un après.
Diabète, hyper hypertension, délire paranoïaque, son corps marqué par la réanimation.
La chose que j'ai fait, c'est de rallumer mon portable pour que les gens comprennent ce que c'est que la réalité d'un Covid grave. Chaque jour où quelqu'un attend pour aller se faire vacciner, il prend le risque qu'il lui arrive ce qui m'est arrivé à moi, quoi.
Encore en déambulateur, Philippe dit avoir boxé la mort. Il décrit son combat dans un livre à paraître cette année.
Marion Gauthier.
On s'est beaucoup dit ces dernières semaines que l'été 2021 avait été exécrable. Eh bien non, on n'a pas exagéré. C'est même Météo France qui le dit. Une saison très humide et fraîche du jamais vu depuis 7 ans.
Exactement. Et cela a des conséquences. Un indice, vous êtes peut-être en train d'en étaler sur vos tartines. Je vous parle du miel. La production a été catastrophique cet été. Au milieu des ruches de Ribeauvillé, en Alsace, Arthur Mbaché, son micro Europe 1.
Cette année, il a péniblement rempli 2 seaux de miel de 25 kg. En général, avec 40 ruches, la production flirte avec les 2 tonnes.
Personnellement, je suis dans le miel ou dans l'apiculture depuis plus de 40 ans. Et je n'ai jamais connu ça.
André Fritsch préside la Fédération des apiculteurs du Haut-Rhin.
J'ai des ruches que j'ai ouvertes il y a 3 semaines et je n'avais pas un œuf dedans. Donc la reine était présente, mais elle ne pondait plus. Il n'y avait pas rien à manger. Il faut le dire, hein, la météo nous a plombé et nous plombe encore. Hein. Donc le froid a fait que l'abeille ne sortait pas. À partir d'une certaine température, l'abeille ne sort plus. Hein. La météo nous a plombé également au niveau du printemps, puisque toutes les fleurs ont gelé. Les fleurs de cerisier, les fruitiers ont gelé, les acacias ont gelé, les châtaigniers ont gelé.
Donc les abeilles n'ont rien à butiner.
Les abeilles n'avaient rien à butiner. Il faut s'attendre à ce que le miel devienne un produit, je ne veux pas dire un produit de luxe, mais il ne sera peut-être pas exclu que demain, un miel d'acacia que vous trouvez logiquement à 6,50, 7 euros, vous le trouviez à 10 euros le pot.
Les apiculteurs du Grand Est s'organisent collectivement pour monter des dossiers de demande de calamité agricole auprès du ministère de l'Agriculture. Ribeauvillé, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et puis parce que c'est la rentrée scolaire aujourd'hui, un mot sur cette vente aux enchères exceptionnelle chez Christie's, celle d'un manuscrit sur la théorie de la relativité écrit par Albert Einstein lui-même, rien que ça, mise à prix 2 à 3 millions d'euros. Voilà une idée, Julien, si vous cherchez un livre de chevet, ça peut être une idée.
Oui, je pense que vu le prix, je vais me contenter de la version poche. Hein. Merci beaucoup, Romano. Ok.
On passe au sport. Il est 6h08.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange, et une rentrée des classes ratée pour les Bleus.
Oui, l'équipe de France n'a pas pu faire mieux qu'un match nul hier soir contre la Bosnie-Herzégovine. Score final 1-1 malgré le retour des supporters dans un stade de la Méno plein à craquer. Antoine Griezmann a répondu au Bosnien Edin Dzeko, mais l'expulsion de Jules Koundé en début de seconde période a cassé la dynamique des Bleus. Didier Deschamps regrettait d'ailleurs le scénario du match au micro de Cyril de la Morinerie.
On doit se satisfaire de ce match nul, mais qui n'était pas ce qu'on avait prévu. Après, vu le scénario, c'est devenu compliqué quand on a été réduit à 10. Voilà, on est reparti sur un nouvel objectif avec toute notre force et notre énergie. Mais aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas le résultat escompté, mais personne... regarde derrière, le plus important, mais c'était aujourd'hui, et puis là, c'est récupération et ce qui nous attend samedi.
Samedi, rendez-vous à Kiev pour un duel face à l'Ukraine, toujours dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Un match à suivre en intégralité sur Europe 1.
Un chiffre ce matin, 111.
Oui, comme le nombre de buts inscrits par Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, c'est un record. Jamais personne n'avait autant marqué pour son pays. Hier soir, le nouveau joueur de Manchester United a inscrit un doublé pour permettre aux Portugais de renverser l'Irlande. 2 buts qui permettent à Ronaldo de dépasser Ali Day et ses 109 buts inscrits pour l'Iran.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Un 0 pointé pour les Français cette nuit à l'US Open. Défaite pour Adrien Manarino, Arthur Rinderknecht et Caroline Garcia.
Bravo.
À chaque fois, j'ai du mal. Fin de parcours aussi pour l'équipe de France féminine de volley. Mais les Bleus ont quand même arraché un 7 aux championnes du monde serbes hier soir en quart de finale de l'Euro. De bon augure pour cette équipe en reconstruction. Primoz Roglic qui écrase le Tour d'Espagne. Victoire d'étape et maillot rouge de leader récupéré hier. 2 nouvelles médailles aux Jeux paralympiques. Les 2 en bronze et en cyclisme sur route. Pour 2 athlètes déjà médaillés, Marie Patouillet et Alexandre Léauté. Et puis une info pour vous, Julien, un géant de la F1 qui tire sa révérence. Le Finlandais Kimi Raikkonen, un champion du monde en 2007, prendra sa retraite en fin de saison.
Oui, je crois qu'il a plus de 40 ans.
42 ans, oui.
42 ans, exactement. Il était temps pour lui peut-être de passer à autre chose.
C'était le Journal des Sports, signé Martin Lange. Merci.
À demain.
Il est 6h10, vous restez avec nous. Dans un instant, on va prendre la direction des États-Unis.
Où, depuis le début de l'année, près de 14 000 personnes ont été tuées par arme à feu. C'est considérable et pourtant, certains États républicains assouplissent encore un peu plus leur législation. C'est le cas du Texas, où depuis hier, il n'y a plus besoin d'avoir de permis pour acheter un pistolet ou un fusil. Un retour au Far West qu'on va analyser avec la spécialiste des États-Unis, Laurence Nardon. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h13, très bon réveil à tous. Prenons maintenant la direction des États-Unis où, depuis hier au Texas, il est possible d'acheter une arme à feu sans permis ni formation. Comment expliquer cette dérégulation alors que le pays est chaque jour meurtri par des fusillades? Eh bien, c'est l'une des questions, Julien, que vous allez poser à la spécialiste des États-Unis, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales.
Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Omblin le disait à l'instant, les Texans peuvent désormais obtenir des armes à feu sans qu'il n'y ait plus aucun contrôle, plus aucune vérification des antécédents. Ils peuvent même les porter en public aux yeux de tous, ce qui nous semble totalement délirant pour nous Français. Comment analysez-vous ce retour au Far West, si je puis dire ?
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui est évident, c'est qu'aux États-Unis, surtout quand on va vers l'ouest du pays, le rapport aux armes à feu n'est pas du tout le même que le nôtre, vous le disiez. L'idée, c'est que on doit pouvoir se défendre soi-même. Et ce qu'on voit à l'œuvre, là, dans cette nouvelle loi qui vient d'apparaître au Texas.
Cette nouvelle loi qui, d'ailleurs, n'est pas soutenue par une majorité des habitants du Texas.
Oui, ou même au niveau fédéral, en réalité, une majorité de la population américaine est favorable à des plus grands contrôles, mais on le voit dans les États républicains, donc notamment le Texas, la minorité républicaine très radicale réussit à faire passer des lois qui vont dans le sens de ce qu'elle souhaite, des lois très conservatrices. On parle là du port d'armes, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels le Texas a passé des lois très radicales ces dernières semaines.
On va y revenir dans un instant. J'aimerais juste faire ce constat, peut-être ce paradoxe avec vous. Plus il y a de fusillades, et elles sont quotidiennes, plus les Américains achètent des armes. Il s'en est vendu 21 millions l'année dernière.
Oui, parce qu'en réalité, dans cette vision des choses un peu Far West et très individualiste qu'ont ces Américains qui défendent le port d'armes très libre, l'idée c'est que finalement, plus il y a des massacres, plus il y a des problèmes de sécurité, plus ça justifie le fait que vous avez besoin de vous armer vous-même. Si vous voulez, c'est l'idée que le gouvernement est très loin, le gouvernement est incompétent, illégitime, etc. Et donc, chaque citoyen finalement devrait être armé pour se défendre lui-même. Et c'est pour ça que, pour ces citoyens qui sont favorables au port d'armes aux États-Unis, chaque fusillade renforce leur position.
Et le gouvernement, vous en parliez, le gouvernement fédéral à Washington, il ne peut rien faire, il n'y a aucun levier pour mettre fin à cette surenchère ?
Si, le levier, c'est de passer une loi fédérale qui imposerait aux 50 États des normes en termes de régulation du port d'armes. Il y en a déjà eu, hein. Il y a eu des époques où le port d'armes était beaucoup mieux contrôlé, notamment dans les années 90. Le fédéral a aussi réussi à imposer un fichier fédéral pour pouvoir contrôler justement qui a le droit de porter des armes, mais il ne peut pas aller très loin parce qu'en ce moment à Washington, on le sait très bien, les démocrates, même s'ils ont la majorité au Congrès, peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent parce que l'opposition républicaine est quand même très puissante.
Alors le Texas n'est pas un cas isolé puisque quatre autres États gouvernés par des républicains ont passé cette année des lois assouplissant les conditions du port d'armes. C'est là aussi l'illustration d'une droite américaine qui se radicalise ?
Oui, c'est évident. La droite républicaine aux États-Unis se déplace vers la droite et en France, on dirait vers l'extrême droite, depuis des années. Alors ça s'est accéléré avec Trump, mais c'est une évolution qui est en cours. Et donc on en voit les résultats. Donc sur le port d'armes, c'est ce dont on discute, mais aussi sur d'autres sujets.
Oui, bah justement, pour en revenir au Texas, il y a une autre loi controversée qui a été adoptée mardi. Une loi qui vise officiellement à rendre les élections plus sûres, sauf que pour ses détracteurs, c'est surtout un moyen de restreindre le droit de vote des minorités. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, vous savez que les républicains et les trumpistes ont contesté l'élection de Biden en novembre dernier. Ils disent qu'il y a eu une fraude absolument massive. Et ça, ça fait partie de quelque chose que les Républicains affirment depuis des années, c'est que les minorités trichent aux élections et que quand les démocrates gagnent, finalement, c'est de la fraude. Et donc, depuis très longtemps, ils essayent de mettre en place des lois dans les États pour entraver le droit de vote des minorités, parce qu'on sait que les minorités aux États-Unis votent principalement démocrates, pas à 100%, mais quand même en majorité. Et donc, quand on rend plus difficile pour eux le fait d'aller voter, eh ben, ça fait moins de voix démocrates dans les urnes. Et
c'est alors, ce concrètement, qu'on voit au Texas. Ça ressemble à quoi, ces mesures ?
Alors, c'est pas une interdiction de vote en bonne et due forme, parce que quand même, ce serait anticonstitutionnel. Mais, par exemple, on va demander aux gens de montrer une pièce d'identité avec photo. Et on sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité. Donc, une pièce d'identité avec photo, c'est soit votre passeport, beaucoup d'Américains n'en ont pas, soit votre permis de conduire. Et devinez qui n'a pas de permis de conduire aux États-Unis, bah, c'est souvent les femmes latinos, par exemple, qui n'en ont pas. Et donc, comment vont-elles faire pour aller voter ? Il y a d'autres moyens d'entraver le droit de vote. Dans la loi du Texas qui vient de passer, par exemple, on interdit aux acteurs de terrain d'aider les gens à aller voter, par exemple se déplacer ou leur apporter de l'eau quand ils font la queue. Mmh. Tout ça, ça devient interdit. Ce sont quelques exemples, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
Est-ce que vous voyez dans la campagne présidentielle qui s'amorce en France des idées, des débats, des méthodes importées en quelque sorte d'Amérique ?
Alors, on sait qu'il y a beaucoup de valeurs et d'idéaux communs entre les États-Unis et l'Europe. Souvent, quand on dit ça, on pense aux valeurs de progrès, aux valeurs héritées des Lumières, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi énormément d'échanges d'idées très, très à droite qui viennent des États-Unis chez nous, mais aussi dans l'autre sens. Les penseurs d'extrême droite français sont très appréciés des cercles très, très radicaux à droite aux États-Unis. En revanche, ce qu'on voit venir clairement des États-Unis aujourd'hui, c'est plutôt sur les méthodes, et notamment les méthodes des médias et les méthodes qu'on voit avec la montée des fake news sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça très frappant.
Merci beaucoup, Laurence Nardon, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20 sur Europe 1, l'actualité en temps réel avec le journal permanent d'Élise Dangean.
Près de 12 millions d'élèves français vont reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Cette année encore marquée par la crise sanitaire. Dès le CP, le masque sera obligatoire dans les classes. Une campagne de vaccination sera menée dans les collèges et lycées. Deuxième jour de visite à Marseille pour Emmanuel Macron, qui fait sa rentrée politique et vient apporter un plan d'urgence pour la cité phocéenne. Il en détaillera les contours cet après-midi. Enfin, Jean Castex poursuit ses rencontres avec les partenaires sociaux pour évoquer les dossiers de la rentrée, notamment la réforme des retraites. Ce matin, c'est la CGT qui est reçue.
Merci Élise Dangean. Prochain journal complet à 6h30.
C'est la promesse d'un réveil enjoué et rythmé. Votre partition, Omblin, qui ce matin nous fait remonter 33 ans en arrière. Lorsque le 2 septembre 1988 à Londres, Amnesty International donne le coup d'envoi de la tournée la plus ambitieuse de l'histoire du rock. Le Human Rights Now Tour s'apprête à traverser les 5 continents pour célébrer le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Get up,
stand up. Nous sommes, Julien, 3 mois après le concert géant qui avait été organisé pour demander la libération de Nelson Mandela. Dès 16h, plus de 60 000 personnes se massent à nouveau devant les portes du stade de Wembley. Et pour assister à un show de plus de 7 heures sur scène, 4 superstars, Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel et Tracy Chapman, ainsi que le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Tous ont accepté de donner de leur temps à la Fondation britannique sans être payés.
L'objectif d'Amnesty International, c'est de réaliser un coup, être vu et entendu par le plus grand nombre.
Utiliser la musique et un moment de fête pour faire passer le plus important des messages. Les droits de l'homme sont bafoués dans de nombreux endroits sur Terre. La lutte doit continuer. Et Peter Gabriel est ce soir-là l'un des plus fervents messagers. Et on aperçoit sur scène derrière lui le batteur français Manu Katché. Vous l'entendez ? Biko, cette chanson de protestation anti-apartheid est reprise par la foule tout entière.
Et quelques minutes plus tard, c'est au tour de Tracy Chapman d'entrer en scène avec juste sa guitare et avec sa chanson qui parle d'elle-même. Don't you know, they're talking about a revolution sounds. La nuit tombe sur Wembley, les shows se succèdent, 100 temps morts, 100 caprices de stars.
Oui, la solidarité entre les artistes est remarquable. Le public bouillonne lorsque Bruce Springsteen apparaît avec ses partenaires du E Street Band. Si les représentants d'Amnesty International restent en retrait, leurs voix se font entendre grâce à des affiches et à quelques discours qui s'intercalent entre les chansons. If you grew up in the 60s, in the States, you grew up during the Vietnam War. La voix de Bruce Springsteen, parti de Londres. Le voyage autour du monde va durer 6 semaines et passera par Turin, Philadelphie, New Delhi, par Paris le 4 septembre avec en guest Michel Jonas. Des concerts du Human Rights Now se terminent à chaque fois en apothéose avec les musiciens qui jouent les uns avec les autres, improvisent et en guise de symboles. Sting et Bruce Springsteen n'hésitent pas à partager le même micro. Sting et Bruce Springsteen avec cette reprise de Police, Every Breath You Take, lors du concert organisé par Amnesty International, Human Rights Now, enregistré ici à Buenos Aires en Argentine. C'était le dernier jour de la tournée, le 15 octobre 1988.
Une belle année. Merci Omblin pour cette partition.